les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, David Chekroun, professeur de droit des affaires à l'ESCP Business School, nous parle du contrôle des investissements étrangers en France. Épisode 5, le rôle de l'avocat dans le contrôle des IEF.
Hubert Séguin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez traité en tant qu'avocat un grand nombre de dossiers de contrôle des investissements étrangers et avec vous, nous allons dans ce dernier épisode tirer les enseignements de votre expérience. Alors, Hubert Séguin, comment vient-on à se spécialiser dans le contrôle des investissements étrangers en France ? J'avais l'impression qu'on venait au contrôle des investissements étrangers par le droit public, par le droit de la concurrence. Est-ce votre cas ?
Alors ce qui est vrai, c'est que c'est une matière qui est enfin, des rares domaines du droit dans lequel on rencontre des spécialistes d'horizons très différents. Comme vous le disiez, un droit public, fusion-acquisition, droit de la concurrence. Je dirais que c'est peut-être un des aspects les plus sympathiques de la matière. C'est qu'on travaille avec des confrères d'horizons très différents et de cultures juridiques très, très différentes. Et pour ma part, j'y suis venu par les fusions-acquisitions, qui est la matière dans laquelle je me suis spécialisé. Et parce que, si vous voulez, quand j'ai commencé à regarder ces dossiers il y a peut-être une petite dizaine d'années, j'ai été confronté assez rapidement à des dossiers d'investissement étranger. C'est une matière qui m'a plu et que j'ai souhaité creuser.
Comment définiriez-vous les fusions-acquisitions ? Qu'est-ce que des fusions-acquisitions ?
Alors, très simplement, les fusions-acquisitions, c'est une opération par laquelle une société achète une autre société dans le but d'accroître ses profits ou ses parts de marché.
Hubert Séguin, quel est l'impact du contrôle des investissements étrangers en France sur le calendrier des opérations de M&A ?
Alors c'est un impact qui est de plus en plus prégnant, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau une dizaine d'années, c'était des dossiers sur lesquels on ne passait pas trop de temps pour essayer d'analyser l'impact sur une transaction M&A. Aujourd'hui, c'est véritablement un point de négociation. Et il faut distinguer plusieurs phases. Il y a la phase précontractuelle. Et c'est dans cette phase où, généralement, on demande à ce que la cible ou les vendeurs fassent une analyse sur l'application ou pas des régimes de contrôle des investissements étrangers. Et sur la base de cette analyse, ensuite, on se fait nous-mêmes aussi notre propre opinion pour voir si l'opération sera soumise à investissement étranger. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a déterminé que cette réglementation s'appliquait, ensuite vient la phase contractuelle. Et donc, dans cette phase-là, on doit prévoir de négocier plusieurs clauses importantes du contrat. La première, c'est prévoir une condition suspensive, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette opération de fusion-acquisition sans le consentement des différentes autorités, si ceux-ci ont été identifiés. Ça, c'est la première chose. Donc, on travaille sur la rédaction de la condition suspensive. Deuxième point, on prévoit un délai maximal pendant lequel le dépôt devra se faire. D'accord ? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on prévoit une date butoir. C'est qu'on se dit, voilà, si au bout d'un temps prédéterminé, ça peut être 6 mois, 10 mois, enfin, peu importe, en fonction des négociations et de la complexité attendue, l'opération, on n'a pas obtenu les autorisations, l'opération tombe. D'accord ? Donc ça, c'est la date butoir. Et c'est là où on a pas mal de négociations avec nos confrères, en fonction de la complexité des dossiers, en fonction du secteur qui est impliqué, la nationalité de l'acheteur.
Parce qu'une vente ou une fusion-acquisition internationale, c'est du contrat. On vend des actions, on vend des assets, des biens. Et puis, il y a un autre élément qui est la place du régulatoire, c'est-à-dire l'autorité de la concurrence qui peut dire non, ou le contrôle des investissements étrangers. Et donc, votre rôle, si je comprends bien, il est double. C'est la transaction, et puis aussi de bien faire attention aux enjeux de concurrence et de contrôle des investissements étrangers. Alors, Hubert Séguin, quel est le rôle véritablement de l'avocat dans le contrôle des investissements étrangers ?
Alors, l'avocat est censé d'abord maîtriser les textes et la réglementation. Alors, en France, on a des lignes directrices Et c'est à peu près la seule chose que l'on est, en plus des textes. Et la connaissance, si vous voulez, des avocats sur cette matière-là se fait à partir de la propre pratique de l'avocat. Puisqu'il n'y a pas de jurisprudence, puisqu'il n'y a pas de doctrine, puisque les décisions ne sont pas publiées, de même que toutes les lettres d'engagement qui peuvent être demandées aux investisseurs par les États ne sont pas publiées. Et donc finalement, les investisseurs se reposent beaucoup sur la connaissance qu'a l'avocat et de son expérience dans les dossiers passés.
Et donc votre expérience, ce sont vos dossiers finalement ?
C'est nos dossiers en effet, plus... Puis on échange beaucoup avec nos confrères, des bonnes pratiques, des expériences récentes, pour essayer de partager un peu ces connaissances avec des confrères dont on loue le sérieux.
Et donc, c'est comme ça que vous vous préparez pour une demande d'autorisation préalable ?
Alors, comment on se prépare ? D'abord, la première chose qu'on fait, c'est sensibiliser nos clients à la procédure, à son impact, à l'impact de la procédure d'investissement étranger sur le timing de l'opération. Parce que c'est assez rare, finalement, que nos clients comprennent exactement le fonctionnement de cela. La deuxième chose que l'on fait, c'est d'envoyer une liste d'informations à fournir par la cible et l'investisseur, afin que nous, on puisse faire notre analyse sur les secteurs.
Des informations, par exemple, sur sa nationalité, des informations sur ses activités, des informations sur son passé.
C'est essentiellement des informations d'abord sur son activité, sur l'activité de la cible. Si on veut comprendre ce que fait la cible en France. Là, je prends l'exemple français. Quelle est son activité ? Avec qui est-ce qu'elle signe des contrats ? Est-ce qu'elle a signé, par exemple, des contrats avec des ministères ou avec d'autres autorités publiques ? Est-ce que c'est un secteur qui est par nature sensible ou pas ? Mais je pense que nous y reviendrons. Et on veut également essayer de comprendre la chaîne de contrôle de l'investisseur afin de déterminer si oui ou non on rentre dans les critères d'application de cette réglementation.
Parce qu'on y rentre si 3 critères cumulatifs sont réalisés, c'est bien ça ?
C'est exactement ça, oui.
Alors, donc, le premier critère... C'est la nationalité, si je ne me trompe pas.
Exactement. Avant de passer du temps à analyser le secteur et le troisième critère, d'abord on regarde si oui ou non notre client ou l'investisseur est un investisseur étranger ou pas. Et donc pour ça, on regarde la liste qui est prévue par la réglementation. On prend en compte si l'investisseur est une personne physique de nationalité étrangère. Si c'est une personne physique de nationalité française, mais qui est domiciliée en dehors de la France, il sera considéré comme étranger. Et puis, surtout, alors bien entendu, les entités de droit étranger, hein, si vous avez une société anglaise qui veut acquérir une société française, ce sera une entité de droit étranger, mais aussi, et c'est là où ça devient un peu plus intéressant, toutes les entités de droit français qui sont contrôlées par une ou plusieurs personnes ou entités dont je viens de parler. Alors, savoir que si vous avez une société française, mais qui est contrôlée par une société étrangère, ou... Deuxième exemple, dans une chaîne de contrôle, vous pouvez avoir une dizaine de sociétés. Elles sont toutes françaises, sauf une de ces sociétés est étrangère. Ça suffit à teinter la notion d'investisseur l'investisseur devient étranger.
Et donc, dans ce cas-là, on devient étranger.
Exactement.
Donc ça, c'est le premier critère. Mm-hmm. Deuxième critère, l'investissement. Comment vous décelez s'il s'agit d'un investissement, si ça n'est pas un investissement ? Comment faites-vous ?
Alors là, on regarde si l'opération remplit les critères d'investissement, à savoir, est-ce que c'est une acquisition du contrôle de l'entité de droit français ? D'abord, on regarde la notion de contrôle, au sens de l'article L233 du Code de commerce. On regarde s'il n'y a pas d'acquisition du contrôle de l'entité, on regarde s'il y a une acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français, ce qui est déjà un peu plus nébuleux. Troisièmement, on peut regarder aussi s'il y a eu un franchissement du seuil de 25% des droits de vote de l'entité de droit français. Ce sont ces trois hypothèses de travail-là qu'on regarde et on vérifie si elles sont remplies en l'espèce.
Deuxième critère, et donc le troisième, sans doute le plus difficile à évaluer, c'est la question de la sensibilité. Alors, comment faites-vous pour analyser la sensibilité que l'on se trouve bien dans une activité sensible ?
Alors, c'est l'exercice le plus délicat, on trouve. Et quand je dis on trouve, je pense que c'est un avis qui est partagé par mes confrères. On a du mal. Parfois, c'est évident. Mais parfois,
quand on est dans la défense nationale, là, on sait.
Ça, c'est évident. Voilà.
Mais quand on est dans un bien qui sert l'industrie civile, bon, mais cette même industrie, enfin, ce même produit peut aussi être distribué à des entreprises d'origine militaire, par exemple. Et là, on est peut-être dans une activité sensible. C'est bien ça ?
Oui, bien, par exemple, ça peut être ça. Et en fait, c'est... l'exemple que vous citez peut être décliné à l'infini parce que les entreprises ont des activités toujours très diverses et à chaque fois on est surpris. Mais y a ce travail d'analyse de l'activité, des clients, donc avec qui est-ce que l'entreprise contracte. Est-ce que les activités sont substituables par d'autres ? Quelle est la part de marché de l'entreprise française sur cette activité, ainsi c'est epsilonesque et qu'il y a de très grandes entreprises françaises qui elles sont beaucoup plus actives, ce sera forcément un peu moins important. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est des activités qui participent de la souveraineté de l'État ? Et quand je dis souveraineté de l'État, ça peut être la souveraineté alimentaire, technologique, ça peut... Et en fait, on se rend compte, avec ces 10 ans d'expérience sur ces dossiers, que c'est peut-être... Le critère le plus difficile à analyser. En plus, il évolue en fonction de la sensibilité de l'administration et du gouvernement en place.
Et de la situation géopolitique, la crise sanitaire, les tensions sino-américaines. Revenons maintenant à l'activité pratique, la vôtre. Comment s'opère ce dialogue avec les services de l'État, c'est-à-dire le Bureau du contrôle des investissements étrangers en France, qui dépend de la direction du Trésor, Multicom 4 ?
Alors, on a un dialogue assez ouvert avec Multicom 4. On peut assez facilement les appeler pour leur poser des questions lorsqu'on a des doutes. Et ensuite, une fois qu'on a soumis le dossier, bon, la partie dossier est bien entendu très formelle, donc on répond aux questions qui nous sont posées par Multicom 4 dans le formulaire. Et ensuite, c'est un dialogue qui s'ouvre avec Multicom 4 qui fait son analyse et revient vers nous avec...
Des demandes de précision ?
Ça peut être des demandes de précision complémentaires, des demandes d'informations complémentaires. Parfois, ils souhaitent rencontrer la société cible. Donc, ça peut prendre un peu de temps.
Accompagné par vous, j'imagine.
Presque toujours.
Presque toujours.
Presque toujours. Parfois, certains dossiers, sans rentrer dans les détails, mais parfois, certains dossiers poussent à ce que ces conversations aient lieu directement entre Multicom, absolument.
Et je rappelle peut-être que la demande est toujours faite par l'investisseur étranger, jamais par la société cible française.
Elle est faite, en effet, par l'investisseur étranger. Mais elle ne peut pas être faite sans le concours de la cible. Parce que l'investisseur serait bien en difficulté pour répondre aux questions auxquelles il doit répondre pour son dossier. Et donc on doit associer la société cible à la préparation de ce dossier pour qu'il soit le plus correct possible. Et lorsque le ministère ou Multicom 4 a des questions, la société cible devra être impliquée.
Devra être impliquée. Mmh. Alors, j'essaye de raisonner maintenant pour montrer toute la complexité de la matière. Vous êtes avocat français, vous travaillez à Paris pour une structure qui a des bureaux un peu partout à l'étranger. Vous-même, vous avez été formé aussi aux États-Unis. Comment ça se passe lorsque on rachète une société cible française, mais qui a des filiales, par exemple, à l'étranger ? Est-ce qu'il y a un jeu où il faut demander des autorisations en France et donc à l'étranger, parfois donc dans l'un des États membres de l'Union européenne, aux États-Unis ? Comment vous faites ? Comment vous dialoguez avec vos correspondants à l'étranger et avec les différents régulateurs ?
Lorsqu'on travaille sur des opérations d'ampleur internationale, le travail de diligence dont je parlais pour comprendre si oui ou non on doit faire un dépôt d'investissement étranger, de demande d'autorisation d'investissement étranger en France, on fera le même travail dans chacun des pays dans lesquels la cible est établie. Et donc là, il y a un travail colossal de coordination. D'abord, de comprendre si oui ou non l'activité dans tel pays déclenche le contrôle.
Parce que les conditions ne sont pas toujours les mêmes, c'est bien ça.
Elles sont presque jamais les mêmes.
Ah, presque jamais les mêmes.
Presque jamais les mêmes. Et en fait, chacune des juridictions a un degré de maturité très différent. Donc, il y a certaines juridictions qui ont publié leur réglementation il y a 2 ans. D'autres, depuis 10 ans, travaillent sur ces sujets. Donc, la maturité n'est pas la même.
Parce que la souveraineté ou la sécurité économique de ces pays diffère d'un pays à l'autre en fonction de leur sécurité d'approvisionnement, leur enjeu géopolitique. C'est bien...
Oui, c'est exactement ça. Et quand on reprend un peu, même pour ce qui est de la France, avant la loi Pacte, c'était des dossiers, finalement, d'investissement étranger qui étaient des dossiers plus check the box. C'est-à-dire que ces dossiers qui ne présentaient pas de difficultés, sauf lorsqu'on était sur des secteurs de souveraineté première. Mais pour les autres types de dossiers, c'était de toute façon pas applicable. Donc on a eu une extension formidable des domaines d'application de cette réglementation, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Et donc il y a un gros rôle de coordination. Nous, avec nos 26 bureaux dans le monde, on a un véritable travail de coordination avec des équipes dédiées pour gérer ces dossiers dans le monde entier.
Donc ça veut dire que si la société cible est française et que l'activité principale est en France, vous allez coordonner les différentes procédures d'autorisation avec vos collègues, vos camarades, vos confrères à l'étranger. C'est bien ça?
C'est exactement ça. Et on a créé un groupe de travail FDI. Et on se voit régulièrement, on se rencontre régulièrement pour échanger les bonnes pratiques, donc avec un groupe qui est assez important aujourd'hui, ouais, on a des collègues dans chacun des bureaux dans le monde. Ouais.
Mais alors, Hubert Séguin, le contrôle des investissements étrangers en France, mais aussi ailleurs, modifie la donne des fusions-acquisitions? Ça veut dire que quand vous êtes le conseil d'un vendeur, vous vous intéressez à la cible et donc au contrôle des investissements étrangers?
Bien sûr. Enfin, c'est aujourd'hui, ça fait partie. C'est peut-être un des domaines du droit les moins prévisibles aujourd'hui dans une opération de fusion-acquisition. Et s'il y a une chose que n'aiment pas les fusions-acquisitions, c'est l'imprévisibilité. Et donc, on passe maintenant du temps à essayer d'analyser si oui ou non ces procédures seront déclenchées, et si elles le sont, quel est le risque que l'opération soit refusée ou qu'elle soit attribuée à des conditions telles qu'elle ne soit pas acceptable par un acheteur.
Alors, l'imprévisibilité comme une condition d'insécurité des acteurs, mais aussi la dimension politique. Et lorsque on réfléchit aux grands contrôles des investissements étrangers, Teledyne, Photonis, Carrefour, Couche-Tard, qu'on a évoqué dans ces épisodes, on se dit que finalement le contrôle il est politique. Mais est-ce qu'il est vraiment politique?
Alors, c'est une question qui n'est pas facile parce que ça dépend des jours. Et ça dépend comment je souhaite répondre à votre question. Si vous voulez, j'ai d'abord une approche légaliste des sujets, pour commencer par là.
C'est-à-dire que le contrôle des investissements étrangers, c'est du droit.
C'est d'abord du droit. Donc on va commencer par ça. On regarde si oui ou non on pense qu'on a un sujet, si oui ou non c'est applicable. Parfois, en revanche, il arrive qu'on soit surpris de certaines décisions. Et c'est là où on se rend compte que c'est un outil juridique au service de la souveraineté de l'État. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas simplement un outil juridique au service de la vie dans la société ou des acteurs économiques. Là, on parle de souveraineté étatique. Donc, et simplement, il faut que je pense que tout le monde le comprenne, y compris nos clients, qu'il y a une part d'imprévisibilité dans le travail qu'on peut faire.
Maître Hubert Séguin, je vous remercie.
Merci à vous.
Nous arrivons au terme des 5 épisodes consacrés au contrôle des investissements étrangers en France. Un contrôle qui, vous l'aurez compris, est d'abord un droit et un régulateur au service de ce droit. Mais la très grande proximité de ce contrôle avec la souveraineté nationale et les différents visages que l'État se donne à voir basculent parfois la matière dans un univers plus politique et plus imprévisible qui façonne tout un écosystème. Aujourd'hui, le mouvement de balancier vers plus de souveraineté économique et un contrôle renforcé visant à protéger les entreprises françaises exerçant une activité sensible est le produit des circonstances économiques, environnementales, sanitaires, géopolitiques et politiques de la France de 2023. Mais qu'en sera-t-il demain? Je vous remercie.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé et réalisé par Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.